Il est 8h. Et avant de retrouver un nouveau journal, Sébastien Krebs, la suite de votre matinale.
Avec Théo Manval pour les titres. Bonjour Théo.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une ce matin.
La SNCF n'a-t-elle pas tiré les leçons des drames passés? Un rapport du gendarme du secteur ferroviaire relève des dizaines d'anomalies comparables à celles du drame de Brétigny-sur-Orge. Le détail dès le début de ce journal. Le gouvernement fait sa rentrée. Premier conseil des ministres après les vacances ce matin pour préparer une rentrée qui s'annonce tendue sur plusieurs fronts. Dans ce journal également, le dénouement pour les migrants du navire Open Arms qui ont pu accoster cette nuit à Lampedusa. Vos futurs sapins de Noël déjà grillés par la sécheresse. Et puis les sorties ciné de ce mercredi avec deux monuments côte à côte dans Thalasso, Michel Houellebecq et Gérard Depardieu.
Après le journal de 8h, l'éclairage de Didier François sur l'actualité internationale et l'Italie désormais sans gouvernement après la démission du Premier ministre. 8h15, la politique, le Parti Socialiste de retour à La Rochelle cette semaine pour lancer la reconstruction. Je reçois Luc Carvounas, député PS du Val de Marne.
Europe 1. C'est donc un rapport peu rassurant sur l'état du réseau ferré en France. Le journal Le Parisien révèle ce matin les premières conclusions des récents contrôles menés par les enquêteurs de l'établissement public de sécurité ferroviaire. C'est le gendarme du secteur, Sophie Echen. On y découvre que des anomalies persistent, semblables à celles qui ont mené à la catastrophe de Brétigny-sur-Orge il y a 6 ans.
Oui, des câbles rongés, des boulons desserrés, voire manquants sur certaines éclisses, ces pièces métalliques qui relient les rails entre eux. C'est pourtant cela qui avait causé le déraillement d'un train intercité à Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne faisant 7 morts. Les gendarmes du ferroviaire ont inspecté plus de 14 000 km de voies ferrées de la Bretagne à l'Occitanie en passant par le centre Val-de-Loire. Le journal Le Parisien révèle que certaines anomalies, quand elles sont détectées par les agents de la SNCF, ne sont parfois réparées qu'au bout de 2 ans. C'est le cas par exemple d'un câble défectueux sur un passage à niveau entre Le Dorat et Limoges en Haute-Vienne. Sur la même ligne, les gendarmes du ferroviaire ont repéré à 2 reprises des fils électriques grignotés par des rongeurs. Des fils rongés, c'était justement la cause de l'accident qui avait fait 30 blessés en 2014 à Danguin, dans les Pyrénées-Atlantiques. De son côté, la direction de la SNCF relativise si des écarts graves avaient été notés. Les contrôleurs du rail auraient pris des mesures conservatoires immédiates et ce n'est pas le cas. Près de 1000 km de voies sont rénovées chaque année sur un réseau qui en compte 30 000 en tout. Mais le retard accumulé depuis plusieurs dizaines d'années est très long à rattraper.
Merci beaucoup Sophie Echen pour Europe 1.
Et voilà un dossier donc pour la ministre des Transports qui fait sa rentrée comme tout le gouvernement aujourd'hui. Conseil des ministres ce matin à 10h à l'Élysée.
Après 4 semaines de vacances, il faut préparer le mois de septembre où plusieurs dossiers sensibles vont devoir avancer, de la réforme des retraites à la loi de bioéthique avec la PMA, Jean-Rémy Baudot.
Dans les rangs des ministres, on essaie de dédramatiser. C'est une rentrée sans lettres. Il n'y aura pas de gros dossiers ce mercredi. À peine quelques ordonnances très techniques, confie un conseiller. Mais au sein du gouvernement, on attend surtout impatiemment les paroles du président, le mot d'accueil, le préambule de ce conseil. L'exécutif doit affûter de nouvelles réformes, plus sociales, jure-t-on dans les couloirs des ministères. Ce que l'Élysée appelle l'acte 2 du quinquennat. Et c'est le président lui-même qui doit impulser ce mouvement. Des sujets très politiques vont échelonner la rentrée, souligne-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Dans les prochaines semaines, la loi bioéthique, les retraites ou le statut de l'élu à quelques mois des municipales. Emmanuel Macron, qui sait que la colère des Gilets jaunes peut à tout moment ressurgir, que l'opposition se remet en ordre de marche. Mais le président compte encore profiter d'une semaine très internationale pour garder de la hauteur. Ce week-end à Biarritz, avec les plus grands dirigeants mondiaux, il fera tout pour faire oublier les dossiers à risque de sa rentrée politique.
Jean-Rémy Baudot. Et Emmanuel Macron va d'ailleurs poursuivre sa semaine diplomatique dès aujourd'hui avec la réception ce soir du Premier ministre italien Narendra Modi qui sera convié à 2 sessions de travail du prochain G7 à Biarritz. Un G7 que Donald Trump souhaiterait lui voir se retransformer en G8. Le président américain a dit cette nuit vouloir le retour de la Russie exclue depuis 2014 à la table des discussions.
Europe 1, 8h04.
C'est l'information de la nuit. Les 80 migrants qui se trouvaient encore à bord de l'Open Arms ont débarqué sur l'île italienne de Lampedusa.
Après 19 jours passés en mer pour certains, ce qui constitue un record depuis le début des opérations de sauvetage, ces demandeurs d'asile seront désormais répartis dans 6 pays, dont la France. Et il a donc fallu l'intervention de la justice italienne qui a envoyé des médecins à bord pour forcer la situation et passer outre les refus de Matteo Salvini. Des cris de joie ont résonné sur le pont vers minuit à l'annonce de la nouvelle, Blandine Hugonnet.
Oui, des chants, des cris de joie, vous l'entendez, des cris de soulagement, surtout parmi les rescapés de l'Open Arms. Certains étaient en mer depuis près de 3 semaines. C'est la fin du cauchemar pour eux. Les sourires ont remplacé les crises d'angoisse. À bord ces derniers jours, la situation devenait intenable. Hier, une quinzaine de migrants désespérés se sont même jetés à la mer. Et ces derniers jours, c'était l'impasse pour le sort du navire humanitaire. Les ports proposés par l'Espagne sont trop loin, dit l'équipage. Côté italien, l'accueil est refusé catégoriquement par Matteo Salvini. Finalement, c'est hier soir dans la soirée qu'un procureur sicilien débloque enfin la situation. Venu sur le navire constater les conditions des migrants, il ordonne le débarquement immédiat de tous les rescapés. Peu avant minuit, l'Open Arms est donc accueilli au port de Lampedusa par les applaudissements des habitants. Les 83 migrants qui restent à bord descendent à terre un à un. Ils ont été pris en charge dans le centre d'accueil de l'île italienne. Le navire est lui immobilisé pour être mis sous séquestre par la justice italienne.
Merci beaucoup Blandine Hugonnet, correspondante d'Europe 1 en Italie. L'Italie où les consultations débuteront à 16h cet après-midi à Rome après la démission hier du Premier ministre Giuseppe Conte. Le président de la République Sergio Mattarella va recevoir les représentants de tous les partis politiques pour tenter de former une nouvelle coalition. À défaut, de nouvelles élections pourraient avoir lieu à l'automne. L'ancien numéro 3 du Vatican reste en prison. La justice australienne a rejeté cette nuit l'appel du cardinal Pell, condamné à 6 ans de réclusion pour agression sexuelle et viol sur mineurs, des faits qui remontent aux années 90. George Pell est le plus haut représentant de l'Église catholique jamais condamné pour de tels crimes.
La santé à présent, c'est le premier motif de consultation chez son généraliste. L'hypertension doit être prise au sérieux et cela dès l'âge de 30 ans.
Elle touche aujourd'hui 15 millions de Français et une étude britannique publiée dans la revue Lancet révèle qu'elle peut avoir effectivement des conséquences sur le cerveau dès l'âge de 30 ans. Elle accroît notamment le risque d'Alzheimer. Il faut donc se faire dépister. Mélanie Gomez.
Dans cette étude, ces chercheurs ont suivi plus de 500 volontaires, tous nés en 1946. Dès l'âge de 30 ans et tout au long de leur vie, on a mesuré régulièrement leur pression artérielle. Résultat, ce que cette équipe a montré, c'est que les patients qui avaient de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire plus de 14,9 sur l'appareil, et ceux dès la trentaine, avaient plus de risques de souffrir de maladies cérébrales aux alentours de 70 ans. Car finalement, même chez les patients jeunes, avoir une pression artérielle trop élevée causerait des dégâts très vite au niveau du cerveau, et plus particulièrement dans une zone qu'on appelle la substance blanche, précise le professeur Jacques Blacher, cardiologue à l'Hôtel Dieu à Paris.
On voit qu'à l'âge de 36 ans, ceux qui ont un niveau un peu plus élevé de pression artérielle vont avoir plus d'infarctus 35 ans plus tard, hein, après 70 ans, plus d'infarctus de la substance blanche et vont avoir un volume du cerveau qui va être réduit. Ce sont des éléments qui sont très fortement associés au déclin cognitif, à la démence et notamment à la maladie d'Alzheimer.
Alors la bonne nouvelle par contre, c'est qu'avoir de l'hypertension, même jeune, ce n'est pas être condamné à souffrir d'une démence plus tard. Si on traite cette maladie avec des médicaments ou même chez certains patients, parfois juste en mangeant moins de sel ou en perdant du poids, eh bien le risque pour le cerveau revient à la normale.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.
La suite du journal de Théo Manval avec la sécheresse qui fait mal à nos futurs sapins de Noël.
Oui, les températures extrêmes de cet été et l'absence de pluie ont littéralement décimé certaines pépinières, notamment près de Saint-Dié-des-Vosges où Arthur Elmbachet s'est rendu et où les sapins prévus pour 2026 sont tout simplement bons à jeter.
Ils ne verront pas Noël 2026, c'est pourtant ce qui a été prévu. 3000 sapins rouges vifs, victimes de la canicule, brûlés cet été dans la parcelle de Fabien Mathieu à Sainte-Marguerite.
Voilà ce que ça donne les sapins quand on les sort. Mort de chez mort, et quand on voit le craquer, on voit bien qu'à l'intérieur tout est sec, quoi. Il n'y a plus de verre, il n'y a plus rien, et ils sont foutus, quoi. Donc voilà, il devrait ressembler un peu plus à ça, il devrait être vraiment un vert clair, un petit peu de vert foncé, un peu comme l'herbe d'à côté.
Il y en a un tout seul au milieu du champ là, qui est à peu près vert.
Tous les autres, ils sont complètement brûlés par le soleil, quoi. En fait, ils sont vraiment tout rouges, quoi. Rouge-brun, on dirait qu'ils sont rouillés, quoi. Ici, j'étais venu avec la voiture, il y avait 45 degrés, quoi. Quand il y a eu le premier épisode de canicule, fin juin, on est venu voir. Les sapins étaient magnifiques. On est revenu une semaine après, on en avait à peu près 25% qui étaient grillés. 3 semaines après, c'est passé à 50%. Puis là, on a 95% de la récolte qui est complètement détruite, quoi.
Est-ce qu'à cause du réchauffement climatique, vous posez des questions sur la poursuite de votre activité de sapin ici dans les Vosges?
On verra. C'est l'avenir qui nous le dira. Là, pour l'instant, on ne veut pas trop paniquer. Et puis, on va continuer tout doucement, petit bonhomme de chemin, quoi.
La parade, pour le moment, en tout cas, dit le producteur, c'est d'avoir des parcelles différentes les unes des autres. Ces sapins exposés au nord ou sur sol humide ont mieux résisté à la canicule. Sainte-Marguerite, Arthur Elmbachet, Europe 1.
Dans le Nord, le maire de la commune de Meungs porte plainte pour coups et blessures ainsi que menaces de mort. Il dit avoir été menacé avec une tronçonneuse par des membres de la communauté des gens du voyage qui découpaient la clôture d'un terrain municipal pour y installer illégalement leur caravane. L'édile se serait interposé avant d'être frappé puis menacé. Les perquisitions menées par la police n'ont pas permis de retrouver l'engin en question.
Allez, c'est mercredi, on va terminer avec les sorties cinéma et ce duo haut en couleur pour porter le film Thalasso.
Michel Houellebecq et Gérard Depardieu réunis à l'écran en pleine cure d'amaigrissement dans un établissement de Cabourg. Rien que l'affiche est prometteuse. C'est un film européen que nous recommande Mathieu Charrier.
Thalasso est une vraie comédie qui oscille entre la fiction et le documentaire, car Houellebecq et Depardieu y jouent chacun leur propre rôle. Le film commence avec Houellebecq enfermé dans une machine de cryothérapie, pas très rassuré, et lorsqu'il sort dans le parc pour se griller une cigarette, il tombe sur Gérard Depardieu, lui aussi en cure d'amincissement, et qui lui annonce que la cryothérapie est hyper dangereuse, surtout pour ses parties intimes, début d'une complicité.
Il n'y a pas de risque que les ongles se détachent ?
Du tout.
C'est hyper dangereux, surtout que t'es pas épais, toi. Tu peux geler, ton os peut geler.
Les deux hommes vont alors tout faire ensemble, les séances de massage à la boue, les piscines à remous, les déjeuners au menu très frugal, sauf que n'ont qu'une idée en tête, trouver du vin. Guillaume Niclou filme alors surtout la rencontre entre les deux hommes.
Moi ce qui m'intéresse c'est que l'alibi fictionnel puisse leur permettre finalement d'être encore plus eux-mêmes à l'intérieur d'un film de fiction. On a un rapport très Laurel et Hardy et ubuesque sur certaines scènes qui rendent évidemment le film, j'espère, très singulier et très drôle.
Alors Thalasso est un film décalé, drôle parfois, mais qui a aussi une part de fantastique, notamment lorsque débarquent dans le centre les voyous qui avaient enlevé Houellebecq dans un précédent film de Niclou. En tout cas, voir s'amuser à l'écran ces deux monstres sacrés de la littérature et du cinéma est jouissif. Ils dissertent sur le sens de la vie, la culture du corps parfait, les élixirs de jouvence, la mort aussi. Mais une chose est sûre, ils n'en font qu'à leur tête.
Mathieu Charrier. Et puis, beaucoup d'entre vous reconnaissent les premières notes de ce tube planétaire « I got a feeling ». Fred Rister, compositeur de l'ombre du DJ David Guetta, nous a quittés hier. Très proche de la star des platines avec laquelle il travaillait depuis le début des années 2000, il avait été couronné d'un Grammy Award pour un autre succès, When Love Takes Over, en 2010. Fred Rister était malade, hein, atteint de plusieurs cancers. Il s'est éteint hier à l'hôpital de Tourcoing. Il avait 58 ans.